Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
Et les comptes Twitter qui sont basés au Canada et qui seraient parmi les plus actifs dans la propagation de désinformation liée aux thèses véhiculées par le gouvernement russe. Et ça, c'est selon un rapport du département d'État des États-Unis. J'en parle avec Martin Geoffroy, qui est professeur de sociologie au cégep Édouard Montpetit, mais qui est aussi directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Monsieur Geoffroy, bonjour.
Bonjour, Geneviève.
Bon, on va essayer de se démêler dans tout ça, puis on va parler aussi un peu plus tard de la manifestation qu'il y a eu en fin de semaine là dans la région de Québec. Là, par rapport à ces pages Twitter-là qui sont vraisemblablement établies au Canada, c'est fou quand même parce que ce que j'apprenais dans l'article que j'ai lu à ce sujet-là, c'est qu'environ 7% de tous les tweets qui ont été émis entre avril et juin et qui relaient des articles qui mettent de l'avant les thèses typiques de la propagande russe et anti-américaine, ben ça provient du Canada. Et c'est quand même assez surprenant. Mais pour ceux qui connaissent peut-être pas cet univers-là, c'est quoi ces thèses-là?
Oh, ben il y en a plusieurs thèses, mais vous savez, vous avez le contraire aussi, hein? Vous avez la Russie et les États-Unis qui ont différents sites et intervenants et différentes thèses et qui s'affrontent donc sur ces réseaux sociaux-là et qui font de la propagande. On parle dans l'article en question de Global Watch ce matin, qui ferait de la propagande pro-chinoise, hein? Jusqu'à un certain point qui sont
pour de la propagande. Global Watch.
Oui, c'est un site Global Watch là qui est fait par un ancien, selon l'article, c'est un ancien professeur de l'Université d'Ottawa, Michel Chutodowski, qui est un auteur aussi qui écrit qui a écrit plusieurs livres dans la collection je dirais très à gauche, Éco-Société. Là, ce site-là serait un peu pro-chinois, c'est-à-dire pro les politiques chinoises, tout ça. Mais si vous avez le contraire aussi, vous avez un quotidien, un journal, pardon, c'est pas un quotidien, mais un journal papier qui est distribué, par exemple, partout au Québec et beaucoup sur la Rive-Sud, qui s'appelle The Epoch Times, et qui c'est de la propagande anti-chinoise et qui est publié par la secte Falun Gong, qui est une secte persécutée par le gouvernement chinois, mais qui veut se venger un peu de ce gouvernement-là. Donc, vous avez de la désinformation des deux côtés, là, finalement. Et le journal Epoch Times, d'ailleurs, il se présente comme un journal, ordinaire, quoi. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou ailleurs, de se faire une idée de la véritable information. Moi, j'étais scandalisé par ce journal Epoch Times. Oui. On reçoit à la porte ici chez nous, à Longueuil, comme un journal ordinaire.
Mais c'est ça qui est épeurant. C'est le fait qu'en ce moment, quelqu'un peut recevoir ça chez lui, se mettre à le feuilleter et tout à coup prenne ça pour de l'information journalistique véritable.
Et ce journal-là, c'est pour ça que j'étais scandalisé, il est présenté comme un journal sérieux. Et c'est fait par une secte, Falun Gong, la même secte qui fait des spectacles de danse, là. Et jamais c'est dit que le journal est fait par Falun Gong, comme par hasard. Et même chose pour les sites dont on parle, comme Global Watch, ça se présente comme de l'information, je sais pas, comme CNN ou comme le Journal de Montréal, et ça se présente comme de l'information factuelle, mais ce sont des sites qui, à la base, font de la propagande, que ce soit pour les États-Unis ou pour la Russie ou pour un pays en particulier. Alors, vous avez même maintenant la Russie qui a mis en place un réseau qui ressemble à Facebook, qui s'appelle VKontakte, et d'ailleurs, dont tous nos ténors de complotistes sont en train de migrer sur ce réseau-là. Mais faut pas se leurrer. Autant Facebook est contrôlé par les Américains, autant VKontakte est contrôlé par les Russes. Et dans les deux cas, on s'en sert pour faire de la propagande pour les intérêts des deux pays en question.
Puis là, en même temps, ce qui ressortait tout ça ce matin, c'est que ces infos-là qui émanent de ses comptes Twitter ou d'un site comme Global Research. Quand même, le Global Research, il y a 38 000 abonnés sur Twitter. C'est quand même pas rien, là. C'est plus que 10 000 pour être considéré comme d'influence, si on veut. Là, ça peut avoir, ces informations-là, un impact réel. Là, je pense entre autres à la présidentielle américaine qui s'en vient.
Oui, oui, notamment à la présidentielle américaine, effectivement. On sait qu'on est à presque une semaine là, de l'élection et qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Twitter a commencé à mettre des nouvelles petites politiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il nous demande maintenant de lire un article avant de le retweeter. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
Oui, il y a comme des espèces de mises en garde, comme quand on veut écouter un film et que ça s'adresse à un public averti seulement. C'est un peu le même genre.
Oui, c'est ça. Ils se mettent à mettre des mises en garde, mais en même temps, ils permettent des comptes. Twitter, c'est le pire. Vous savez que, par exemple, bon, on sait qu'Alexis Cossette-Trudel et d'autres, mais pour l'instant, seulement Alexis Cossette-Trudel a été exclu de YouTube,
Vimeo.
De Facebook, et Vimeo, YouTube, mais pas encore Twitter. Hein? Alors, Twitter, il est encore là. Puis, j'en connais des pires, moi, qui sont sur Twitter, des Québécois comme Vic Survivaliste, qui est carrément... antisémite.
Martin, il y en a plein, là, Martin, là, chaque jour, on parle d'antisémitisme, on parle de gens qui ont des propos hyper racistes, des propos homophobes, des propos à la limite du terrorisme et de la menace qui sont là quotidiennement à répandre leur fiel. Je comprends pas pourquoi Twitter attend, est à la remorque des autres plateformes à ce point-là, là.
C'est le pire de toute la gang. Vic Survivaliste, là, comme je vous disais, c'est un négationniste. C'est quelqu'un qui nie l'Holocauste. C'est quand même grave en France. France, ben oui, mais il est toujours sur Twitter. Ça fait comme ça fait comme plus d'un an que je parle de lui. Puis je dis, hey, Twitter, quand est-ce que vous allez enlever ça, là?
Non, mais pourquoi au Québec aussi? Parce que là, moi, c'est ça qui, depuis quelques temps, là, beaucoup d'articles qui sortent pour dire, on a beaucoup de comptes au Québec, de fausses informations, des comptes complotistes, des comptes haineux. Tu sais, j'écoutais Enquête récemment qui disait qu'au Québec, les théories QAnon étaient parmi les territoires où c'était le plus populaire. C'est quoi notre problème, sérieusement? Et on est-tu en manque de religion tant que ça? Qu'est-ce qui se passe?
C'est une grande question auquel moi et d'autres chercheurs, dans les prochains mois, on va s'attarder à répondre à ça. Oui. J'aimerais ça vous donner toutes les réponses tout de suite, mais bon, on peut y aller de quelques hypothèses. Effectivement, là, je vois la sociologue des religions en vous qui a envie de dire, on a enlevé la religion au Québec puis on l'a remplacée par un autre type de religion.
Mais QAnon, il y a plein de monde qui compare ça à une religion. Là, il y a des images messianiques. C'est une iconographie religieuse. C'est un système religieux. C'est pas farfelu de dire que QAnon, c'est une nouvelle forme de religiosité, là.
Ben, c'est pas farfelu du tout, là. C'est pas exactement la religion à l'ancienne. Je vais vous épargner les concepts. Là. Nous autres, on appelle ça les chercheurs de l'hyper-religion. Là.
Ouais.
Parce que pour les gens, c'est ça souvent. QAnon est plus réel, en fait, que la réalité, hein, jusqu'à un certain point, pour ceux qui croient à QAnon. Mais effectivement, c'est une nouvelle religion. Mais je dirais que c'est plus qu'une nouvelle religion, c'est une nouvelle secte. Parce qu'il y a religion mainstream, vous savez, les gens qui vont à la messe le dimanche, là, puis qui sont plus ou moins impliqués, puis il y a une religion de type sectaire là, où les gens sont prêts à tout pour défendre leurs croyances et leurs credos. Là. Alors, c'est une chose de dire de fêter Noël, puis de fêter le petit Jésus, puis d'aller à la messe, mais c'en est une autre d'être prêt à descendre sur l'Avin en voiture, et de par un beau samedi après-midi pour protester contre les mesures sanitaires.
Non, puis là, on se déploie, on y va, on bloque le trafic, on roule à 70 km/h, il n'y en a pas de problème. Puis ça part justement de Montréal, ça s'en va vers Lévis. Il faut penser quoi de tout ça? Il y a des gens qui ont peur, là. Il y a des gens qui se disent en ce moment que au niveau civil, il pourrait y avoir des perturbations. Les gens sont assez craintifs, je les comprends.
Ben, effectivement, puis quand on voulait parler de religion, mais je veux dire, c'est assez symbolique. Alexis Cossette-Trudel qui survole cette foule-là en hélicoptère.
Ben oui, toi.
L'espèce de messie du complotisme qui les regarde d'en haut. Puis ça, en fait, c'est la fondation de Stéphane Blais qui a organisé ça. Puis ils ont loué cet hélicoptère-là avec l'argent qu'ils ont ramassé de la fondation. Alors, c'est quand même 400 000 $ qui a été ramassé supposément pour payer des avocats pour poursuivre le gouvernement et qui finalement sert à louer des hélicoptères pour Alexis Cossette-Trudel. C'est quand même remarquable.
Non, mais ça, oui, puis vous faites bien de le souligner, Monsieur Geoffroy, mais j'allais dire, tu sais, vous êtes un expert de la radicalisation et de ces processus. Est-ce que automatiquement, parce qu'il y a des gens au Québec en ce moment qui sont en train de se radicaliser, là, c'est un terreau parfait pour ça, là. Est-ce qu'avec la radicalisation, vient automatiquement l'action?
Pas nécessairement. Je vous dirais que dans 80, c'est ça qui est rassurant, dans 99% des cas, quand la police arrive chez eux, ils se dégonflent. Mais c'est le 1% qui est préoccupant quand même. C'est le 1% qui pourrait passer à l'action, justement. Et ça, effectivement, dans le cadre d'une pandémie où toutes les tensions sont exacerbées, puis pas juste pour les complotistes, pour tout le monde.
Mais c'est comme si leur prophétie se réalise aussi, là, tu sais, leur espèce de paranoïa de fin du monde, là, le bris de normalité. Là. Il y a plusieurs choses qui sont alignées en ce moment.
Oui, effectivement. Le fameux bris de normalité, ça, c'est plutôt du côté des survivalistes. Ouais. Mais c'est ça, c'est cette prophétie-là s'auto-réalise jusqu'à un certain point. Mais en même temps, bon, il faut quand même... ça se auto-réalise dans leur tête, parce que dans la réalité... mais c'est parce que dans la réalité, en ce moment, la plupart d'entre nous, là, on n'est pas pendant la Troisième Guerre mondiale, là, tu sais, on boit du vin, on s'amuse encore quand même, on regarde la télévision, on est bien chez nous, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans une zone de guerre, là, tu sais.
Non, mais c'est quelque chose qui boue depuis longtemps. Il y a plusieurs chercheurs qui essaient de mettre les gouvernements en garde par rapport à ces groupes-là depuis des années. C'est ça qui arrive aussi, là. On a un peu manqué d'écoute, là.
Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis encore plus inquiet pour les États-Unis dans une semaine si Joe Biden est élu, parce que là, on a des milices comme les Proud Boys organisées
Il l'a dit qu'il ne pouvait pas assurer que la passation des pouvoirs se ferait dans la paix.
Je pense que dans le cas de Trump, qu'il ne veut pas que ça se fasse dans la paix. Il va probablement contester l'élection. Et on risque d'avoir l'envers de Black Lives Matter aux États-Unis. On a eu des protestations avec Black Lives Matter. On risque d'avoir l'envers sous un gouvernement démocrate, c'est-à-dire des protestations de groupes d'extrême droite suprémacistes blancs. Mm-hmm. Alors oui, c'est un climat, en tout cas surtout pour les États-Unis, qui est explosif. Au Québec,
S'en inspire. On voit plein de drapeaux pour Trump, des gens qui portent des casquettes, Make America Great Again. C'est tout ça, il y est quand même.
Trump est un modèle, mais c'est quand même fascinant de voir autant de drapeaux. On voit plus de drapeaux de Trump dans ces. Je regardais la manifestation fin de semaine. Il y avait plus de drapeaux de Trump que de drapeaux du Québec. Fait que là, on a envie de dire que ça peut-être mieux aux États-Unis.
Mais bien les anciens drapeaux du Texas au temps de la ségrégation raciale, et en veux-tu en v'là, Alouette.
Oui, ben c'est parce que ils rêvent d'un monde fantasmé plutôt d'extrême droite là où ils voudraient vivre ces gens-là, mais qui n'existent pas autour d'eux. Alors leur but c'est de provoquer des choses pour que l'État soit déstabilisé, pour qu'ils puissent dans leur fantasme amener ce monde-là par le bruit de normalité, puis reconstruire, détruire le monde qui existe pour reconstruire le monde fantasmé qu'il voudrait avoir. Mais
on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, et dans la réalité. C'est ça qui est le plus fou de se dire.
Mais heureusement pour nous, quand même, il faut quand même relativiser. On a quand même, le gouvernement du Québec est quand même relativement en contrôle de la situation, là, bien qu'il y en a qui critiquent qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Mais si on compare, par exemple, à la France, où on bat des records en ce moment parce que justement on a trop ouvert. Vous savez, en France, ils vont voir des spectacles, ils vont au restaurant, tout ça. Ben, ils ont 5 fois plus de cas de COVID que le Québec. Là. Mm. Fait que quand même, à un moment donné, faut se comparer puis se consoler puis dire que les mesures sont pas parfaites, mais quand même, on a un contrôle relatif qu'ils ont peut-être pas ailleurs, et puis que c'est dur pour bien du monde, effectivement. Moi je pense qu'on va passer à travers là quand même. Mais on va espérer qu'il n'y ait pas des gens parce qu'on prend seulement un individu là qui part avec
pour péter un boulon puis faire des dommages, c'est ça.
Pour péter un boulon puis faire des dommages, c'est ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut surveiller ça, puis il faut comprendre surtout pourquoi des gens défient toute logique hein, défient toute logique et ne veulent pas se fier à la science.
Ben c'est ça, je pense que c'est important qu'on s'attarde. Moi, je disais dans une chronique récemment, puis on va terminer là-dessus, Monsieur Geoffroy, qu'il faudrait peut-être commencer à se poser la question à savoir pourquoi il y en a autant. Pourquoi ce discours-là trouve autant d'adeptes ici? Pourquoi ça parle à autant de monde? Je pense qu'on a un petit examen de conscience collective peut-être à faire. Martin Geoffroy, merci. Martin Geoffroy, qui est professeur de sociaux au Cégep Édouard-Montpetit et qui est aussi directeur du CEFIR.